Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Mercredi 17 juin 2026, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Quelle belle idée! Est-ce qu'il y a des fans de Céline Dion autour de la table?
Non, pas vraiment.
Un peu? Du tout. Ah zut, cette info va pas vous intéresser. Peut-être qu'elle intéressera les auditeurs et auditrices. J'imagine du coup que vous n'avez pas votre place pour un de ces concerts parisiens de cet automne ou du printemps prochain. Non, Ishan fait un gros nom de la tête, surtout pas. Ça se passe à la Défense Arena. Sachez que, chers auditrices et auditeurs, du coup je m'adresse à vous, vous avez peut-être une chance d'en choper une et à moindre coût. Une école primaire de Rennes, l'école Saint-Clément du quartier de Clenay, propose rien que moins que 2 places VIP pour un des concerts de Céline comme premier lot de sa tombola. Oui, rien que ça. Alors forcément ça fait des émules. À votre avis, autour de la table, combien de tickets de tombola ont été vendus par les enfants avec cette annonce cette année?
300.
Ouf, beaucoup plus.
500.
Où tu peux y aller?
3000.
Ouais. 14 000. L'idée serait venue d'une maman d'élève qui aurait proposé à prix coûtant les places VIP à l'association de parents d'élèves. Quelques centaines d'euros bien dépensés qui seront bien vite remboursés, l'école ayant vendu le triple du nombre de billets de l'année dernière. Les bénéfices devraient servir à financer la végétalisation de la cour d'école. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance, ça fera une bonne action. Tout de suite, pas Céline, mais Ishan avec son flash.
Qui succédera à l'Argentine, grande gagnante de la Coupe du Monde de football en 2022? Hier et aujourd'hui, plusieurs favoris sont entrés en lice. L'Argentine a parfaitement lancé la compétition en dominant l'Algérie 3-0. La France a aussi brillé en remportant son match contre le Sénégal 3-1. Les cartes sont rebattues, l'événement est à suivre avec grande attention. S'ils ne se comportent pas bien, nous recommencerons à balancer des bombes en plein de leur tête. C'est ce que Donald Trump a déclaré à propos de l'Iran. Dimanche 14 juin, un accord vient d'être conclu entre la Maison-Blanche et Téhéran, avec une conséquence directe, la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce protocole d'accord sera signé ce vendredi en Suisse et prévoit la fin de la guerre au Moyen-Orient ainsi que la libre circulation dans le détroit. Un premier pétrolier iranien a d'ailleurs franchi le passage maritime après 2 longs mois de blocus américain. Malgré cette promesse d'espoir pour la paix mondiale, Donald Trump multiplie les menaces à propos des Iraniens. La conséquence immédiate de la réouverture sera bien évidemment la baisse du prix du pétrole. Cependant, les conditions du protocole restent floues, ce qui risque de remettre le feu aux poudres entre les deux pays. Dîner assez insolite entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les plats seront servis à nul autre endroit qu'au Palais de Versailles. L'événement est trop tentant pour le président américain, grand fan de la royauté et des dorures. Il le dit lui-même, Versailles, ce n'est pas du plaqué or, c'est du lourd. Cette invitation prestigieuse fait réagir sur les bancs de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon proteste sur X en disant « Il faut définitivement apprendre à vivre sans Trump ». De son côté, Emmanuel Macron se défend. Il s'agit selon lui de célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine parce que la France y a joué un rôle. Cependant, cette rencontre vise aussi à éviter le départ prématuré de Trump du G7, comme lors du dernier sommet au Canada. La France et les États-Unis se rencontrent à Versailles.
En effet, hier, le Premier ministre l'a annoncé sur X, le réseau social d'Elon Musk, ancien proche de Donald Trump, que la DGSI va utiliser des logiciels français à l'avenir. L'idée est de se débarrasser de Palantir, une entreprise à l'éthique douteuse, fondée aussi par des proches de Donald Trump. Les logiciels de Palantir seront remplacés par ceux de ChapVision, une entreprise française fondée par Olivier Delambacque. Pour rappel, la DGSI, ou Direction Générale de la Sécurité Intérieure, est le principal service de renseignement intérieur français. Dans son annonce, le Premier ministre dit:
nous ne pouvons pas dépendre du bon vouloir de certains partenaires capables, comme nous l'avons vu ces derniers jours, de couper le robinet d'accès au modèle d'Anthropique.
Ici, le chef du gouvernement fait référence à un événement survenu il y a 2 jours. Le président américain a interdit l'accès aux dernières IA d'Anthropic, entreprise états-unienne ou non américain. En réponse, Anthropic a préféré couper l'accès à tout le monde. Ce changement est donc là pour éviter de dépendre des États-Unis, car depuis 2016, la DGSI utilise les outils de Palantir pour traiter des données. Palantir est une entreprise qui crée des logiciels spécialisés dans le maintien de l'ordre, la sécurité et le renseignement. Ces services sont notamment utilisés par la communauté du renseignement des États-Unis, dont font partie la CIA ou le FBI, mais aussi par l'ICE, la police de l'immigration américaine, connue pour ses nombreux débordements. Ces logiciels sont souvent utilisés de manière contraire aux droits de l'homme. De plus, ses fondateurs sont des soutiens de Trump, dont Peter Thiel, critique de la démocratie et de l'inclusivité. Le Premier ministre explique son choix par l'envie de garder l'indépendance face à un allié américain qui semble de moins en moins coopératif, et pas par l'idée de s'éloigner d'une entreprise à l'éthique remise en cause. En réalité, l'État essaie depuis longtemps de changer de fournisseur. En 2021, un appel d'offres a été lancé pour trouver une alternative souveraine aux outils de Palantir. 3 entreprises avaient répondu. Dès 2024, la préparation des données avait été confiée à ChapVision, mais leur traitement était resté entre les mains de Palantir. De plus, la France n'est pas la première à changer de logiciel pour une alternative souveraine. L'Allemagne a déjà commencé à utiliser Argonos, un logiciel de ChapVision, en mai, même si ce n'est qu'un changement parmi tant d'autres dans les logiciels de l'État allemand. La DGSI avait quand même renouvelé son partenariat en 2025, ce qui signifie que les logiciels de Palantir seront tout de même sollicités jusqu'en 2028. Cela laisse aussi le temps de former les équipes sur les nouveaux logiciels et de transférer les données d'un outil à l'autre.
Le changement des logiciels de la DGSI se fera en 2028. D'ici là, la DGSI se pointera sûrement à Scilab. Merci Cali.
On n'espère pas.
Des alertes vigilance orange pour les canicules sont annoncées dans plus de 50 départements français à partir d'aujourd'hui. Vigilance dans les territoires du centre-est, du nord de la région Rhône-Alpes et de la région parisienne, où les températures seront les plus élevées. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé une mesure importante. Les épreuves orales du baccalauréat pourront être décalées localement si les conditions de température sont jugées trop difficiles. La région Bretagne n'est pas encore touchée par la canicule, mais les fortes températures finiront par nous atteindre. Selon Météo France, la situation va durer plusieurs jours, jusqu'à atteindre, voire dépasser, la barre des 40 degrés. Un scénario historique en Bretagne, si jamais il se produit. Le coupable de l'accident survenu dimanche dernier vient d'être interpellé par la police. Le drame s'est produit en fin de week-end vers 23h30. Un cycliste a été mortellement percuté par un automobiliste, au Reux, près de Rennes. La victime revenait d'une garden party aux alentours du château d'Apigné. Le coupable a pris la fuite, mais a été retrouvé par les autorités lundi soir, selon le procureur de la République à Rennes. On ignore pour l'instant les conditions de l'accident. Aucun élément n'indique que la route ait été particulièrement accidentogène. La responsabilité de l'automobiliste reste donc à définir. L'enquête sera poursuivie par la gendarmerie locale, sous l'autorité du parquet de Rennes. Cœur Colombier, c'est le nouveau nom du secteur du Colombier. Ce quartier du centre va connaître une profonde métamorphose d'ici la fin du mandat municipal. Conçu dans les années 1960 comme un centre-ville moderne, il souffre aujourd'hui d'un manque d'attractivité. Pour les habitants et habitantes, c'est un véritable labyrinthe. Une agence d'urbanisme parisienne, Urbicus, a été choisie pour imaginer une dalle plus vivante et plus accueillante. Parmi les projets importants, on retrouve la fermeture, puis la démolition du Cinéville, ou encore la fermeture de la brasserie du Colombier. Un espace participatif nommé Dédale sera mis à disposition des Rennais et Rennaises afin de recueillir leurs idées sur l'avenir de la place.
C'était le Flash d'Ishan, merci à toi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Scilab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Cette semaine sur Scilab, on est aux couleurs arc-en-ciel avec une programmation spéciale Pride. Ce soir dans Cham, on vous propose donc d'écouter une interview pour se pencher sur les droits des personnes LGBT. Aujourd'hui, nous sommes avec Emma Rafovitch, vêtue de sa robe bleue. Vous êtes députée européenne et vice-présidente de la Commission Culture et Éducation au Parlement européen. Bonjour.
Bonjour.
On est ici dans l'espace Ouest-France à Rennes. Vous allez participer à une conférence qui s'appelle « Fiers et libres ». Quelles sont les réalités des droits LGBTQIA+ en Europe ? Pourquoi c'est important pour vous de venir aujourd'hui à Rennes ?
C'est important de venir à Rennes parce que déjà Rennes est une ville tout à fait particulière, souvent à l'avant-garde de beaucoup de combats, notamment pour l'égalité des droits. Et j'avais envie de venir à la rencontre des acteurs associatifs qui ici travaillent pour l'égalité, mais aussi des élus de la ville et de la métropole, évidemment de toutes les organisations européennes qui ont organisé ce débat et qui m'accueillent aujourd'hui. En ce moment, en Europe, on est dans un moment de crise majeure. L'extrême droite monte, elle gagne en puissance. On le voit aussi en France, d'ailleurs, où dans un an, les élections présidentielles pourraient donner voir la victoire du RN. Mais nous devons nous battre. Et on va devoir lutter pour éviter ça, parce que finalement, ce qui est en jeu, c'est la survie de notre démocratie et de l'état de droit. Et aujourd'hui, au cœur des attaques contre l'état de droit, eh bien, il y a des attaques contre la culture, il y a des attaques contre les droits des femmes, et il y a des attaques contre les droits des personnes LGBTQIA+. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de la défense de ces droits.
Justement, on va y revenir notamment sur la montée des extrêmes un petit peu plus tard. Mais si on devait faire un état des lieux global, vous l'avez dit, on est en crise. Mais ça ressemble à quoi? Est-ce que les droits avancent, les droits reculent? Comment ça se passe?
Les droits, de manière générale, pour l'instant, ne reculent pas tout à fait. Par contre, ce qu'on voit, c'est dans certains pays européens, des revendications très fortes de la part d'intégristes religieux ou de l'extrême droite qui visent à attaquer les personnes LGBTQIA+. Je pense par exemple à la Hongrie de Viktor Orban, même si victoire, il y a quelques semaines, l'extrême droite a perdu. Je pense à l'Italie de Giorgia Meloni ou à la Pologne quand elle était gouvernée par l'extrême droite. Quand l'extrême droite arrivait au pouvoir, elle a adopté des lois qui ont visé à attaquer les personnes LGBTQIA+. On a eu droit à l'interdiction de la marche des fiertés de Budapest, mais aussi à l'adoption de labels qui considéreraient certains territoires comme libres des personnes LGBT. Non pas libres pour les personnes LGBT, mais libres sans eux. Donc on a des vraies attaques. Dans le même moment, on a aussi des avancées, évidemment. Le mariage pour tous, la PMA pour toutes, ce sont des réalités. Mais ce qu'on voit surtout, c'est une montée des discours de haine qui sont portés par l'extrême droite principalement, mais aussi par tout un camp réactionnaire qui vise les personnes LGBT, évidemment pas seulement les femmes, les personnes issues de l'immigration, les migrantes et les migrants. Et donc, je dirais qu'au-delà de la question formelle de l'évolution des droits ou de leur recul, il y a aussi une bataille culturelle à mener, celle contre les discriminations et les préjugés.
Justement, comment on mène cette bataille culturelle ?
On mène cette bataille déjà en étant au plus près du terrain, au plus près des associations qui aujourd'hui font un travail fondamental de lien, de dialogue, de défense. Tout à l'heure, nous étions en discussion avec notamment le centre LGBTI+, de Rennes, qui travaille avec un certain nombre d'associations, à la fois pour défendre des droits, mais aussi pour la prévention, par rapport à évidemment, des questions de santé. On a aujourd'hui besoin finalement d'aller beaucoup plus loin, de travailler, d'aider ces associations qui sont attaquées. On a besoin aussi de regarder quelles sont les réalités pour les personnes LGBTQIA+, en Europe, et de regarder tout ce qui peut être fait pour finalement améliorer leurs conditions de vie, leurs droits et leurs réalités au quotidien. À ce titre, moi, je vois plusieurs choses à faire. Travailler déjà pour la question aujourd'hui de l'accompagnement des associations qui accompagnent les victimes, notamment de discrimination. Accompagner les associations qui aujourd'hui travaillent aussi à la prévention, notamment je pense au Chemsex. Moi je travaille, j'ai rencontré une association qui s'appelle Chemspose au centre LGBT à Paris, mais qui travaille aussi dans toute la France. On a besoin de continuer aussi à travailler à la prévention des risques de manière générale avec ces associations. Travailler aussi pour l'évolution des droits. À ce titre, tout ce qui a été fait ces dernières années autour du mariage pour tous, de la PMA pour toutes sont évidemment des avancées, mais je crois aussi qu'il va falloir qu'on continue pour faire en sorte que la liberté, l'égalité des droits soit une réalité pour tous. On ne peut pas uniquement être dans la défense. Il faut qu'on soit finalement à l'offensive pour l'égalité.
Et donc on a parlé des pays où l'extrême droite notamment était passée, en Hongrie, même s'il y a une amélioration, mais en Italie. Et qu'est-ce qu'il en est de la France? Est-ce qu'il y a quelles sont ces problématiques qui lui sont un petit peu propres au sein de l'Union européenne?
Bah, aujourd'hui, évidemment, l'extrême droite pourrait gagner les élections demain. Et si Jordan Bardella ou Marine Le Pen, c'est un peu la même chose, mais devenaient présidente ou président de la République, je pense que notre état de droit en souffrirait considérablement. Et donc oui, moi je pense qu'ils sont des menaces pour l'égalité. Et c'est le moment de la réaction, dans le sens où de la résistance. On ne peut pas laisser la France, qui est une grande démocratie, tomber dans les bras de l'extrême droite. Vous savez, moi j'ai rencontré il y a quelques années Antonio Costa quand il était président du Portugal, et qui me disait quand je suis au Conseil de l'Europe, quand je discute avec d'autres chefs d'État, je vois bien ce qui se passe. Meloni, Orban, ils se sentent encore un peu tranquilles, parce qu'ils attendent une chose, que le domino France tombe. Bah, notre boulot, c'est de faire en sorte que le domino France tombe pas, et voire même qu'il reste bien debout pour aider tous les autres dominos qui sont déjà tombés à se relever.
Et justement, on est dans un contexte qui est extrêmement politique, d'autant plus que ces droits, évidemment, c'est une question qui est politique. Cette montée, justement, de l'extrême droite, etc., comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous mettez en place pour, justement, la combattre?
Bah, je pense qu'il faut la combattre en étant finalement très au clair sur ce qu'on défend. L'égalité, on ne transige pas avec. L'état de droit, on ne transige pas avec. La démocratie, on ne transige pas avec. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que parfois, certains, par peur ou par lâcheté, quand ils voient l'évolution et l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, tentent parfois peut-être d'un peu rogner sur leurs valeurs pour peut-être continuer à rentrer dans un moule qui ne serait plus celui de la démocratie. Moi, je refuse de voir une certaine partie de la gauche être fascinée par la Russie de Poutine. Je refuse de voir la droite, finalement, devenir de plus en plus réactionnaire parce qu'ils pensent qu'à la fin, des électeurs pourraient préférer la copie à l'original. Je crois que c'est bien l'inverse, qu'il faut qu'on soit très au clair sur nos valeurs, très au clair sur la défense des droits, mais aussi être au plus proche des associations de terrain, parce que ce sont elles qui aujourd'hui finalement font vivre ces droits au quotidien et ces revendications. Donc moi je vais vous le dire, la Pride qui vient, les Prides qui viennent en France seront des moments de revendication et des moments de lutte, et moi je serai aux côtés des associations à ce moment-là pour lutter avec elles.
Et on constate qu'il y a quand même une certaine polarisation dans les discours. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à discuter, à échanger dans l'hémicycle face à justement un contexte qui est de plus en plus tendu?
L'hémicycle européen, il est particulier dans le sens où je pense que c'est l'un des hémicycles démocratiques dans lequel on discute le plus. On dit qu'au niveau européen, on a cette culture du compromis. Cette culture du compromis, elle est peut-être un peu remise en cause en ce moment par cette force de l'extrême droite, mais aussi par cette hésitation permanente de la droite de savoir avec qui elle a envie de travailler. Est-ce qu'elle a envie de continuer de travailler avec le camp de la démocratie, ou bien est-ce qu'elle a envie de constituer une coalition nouvelle avec l'extrême droite? On a de moins en moins cette capacité à discuter au quotidien, pour autant il faut le faire, mais peut-être pas avec les mêmes. Peut-être que ce n'est plus seulement entre parlementaires qu'il faut discuter et faire des compromis, mais que c'est bien avec les citoyens qu'il va falloir construire de nouvelles coalitions. Les citoyens, ils ont toute leur place dans les hémicycles européens, ils ont toute leur place dans les hémicycles de la République française. Et je crois que c'est le rôle des parlementaires de donner finalement à voir ces paroles citoyennes, de faire parler les associations, de faire parler les citoyens en lutte. Moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers mes combats pour la souveraineté culturelle de l'Europe ou ceux pour l'égalité des droits, que ce soit entre les femmes et les hommes ou pour les personnes LGBTQIA+. Moi, ce que je veux être, et je pense que c'est aussi une partie du remède à nos problèmes, ce que je veux être, c'est une porte-voix des organisations qui se battent. Une porte-voix de citoyennes et de citoyens, le temps finalement d'une espèce de séparation quasi étanche entre les politiques et les associations, les politiques et la société civile, je pense qu'il est pleinement révolu. Et si on veut réellement que la démocratie gagne, il va falloir peut-être qu'elle se déploie encore davantage.
Et justement, au niveau de l'Union européenne, quels sont les leviers que vous pouvez avoir pour permettre une meilleure reconnaissance de ces droits LGBTQIA+?
En ce moment, il y a une lutte importante, qui est celle pour l'interdiction des thérapies de conversion en Europe, thérapies qui n'en ont que le nom, puisqu'évidemment, on ne soigne pas une orientation sexuelle ou une identité de genre, ce sont des pratiques de torture. Moi, j'ai participé à soutenir l'initiative citoyenne européenne qui avait été portée par ACT. J'ai la chance d'avoir été la première signataire en France de cette initiative citoyenne européenne. Le combat, il n'est pas terminé. Il va falloir qu'on continue à se battre pour l'interdiction de ces pratiques de torture. La Commission a donné une réponse particulièrement décevante à cette initiative citoyenne européenne, mais le combat va continuer au Parlement. Et en tout cas, avec les associations, j'ai l'intention qu'on le mène et qu'on le gagne, puisque, comme vous le savez, aucun combat ne peut être gagné s'il n'est pas mené d'abord.
Et les Pays-Bas ont été le premier pays de l'Union européenne à avoir reconnu le mariage homosexuel, c'était en 2001. Aujourd'hui, il y a encore 5 pays de l'Union européenne qui ne le reconnaissent pas, en Slovaquie, en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne. Qu'est-ce que vous dites quand on constate ça?
Ben, je me dis que c'est évidemment très triste, à la fois parce que ça concerne des réalités personnelles extrêmement tragiques pour beaucoup de personnes. Moi, je pense que le combat que nous avons mené en France en 2013, au moment de l'adoption du mariage pour tous, c'était un combat important et utile, qu'il a été très violent, mais qu'il était important. L'amour, c'est pas quelque chose qui se légifère, c'est quelque chose qui se reconnaît. Et aujourd'hui, moi, je veux que l'Europe elle ait son mot à dire pour que finalement ces États rejoignent ce qui devient un droit commun et l'état de droit commun en Europe. Je vois mes parlementaires, mes collègues, notamment polonais, roumains, qui luttent aujourd'hui, je parle des socialistes évidemment, pour que le mariage pour tous soit une réalité aussi chez eux. Alors je dirais qu'il faut les soutenir et qu'il faut que nous, Européens, d'autres pays d'Europe, eh bien aussi nous puissions soutenir tous ces citoyens européens-là qui luttent dans leur pays pour l'égalité.
Et selon l'OFFAM, un tiers des personnes LGBTQIA+, en Europe, avaient le sentiment de faire l'objet d'une discrimination. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez et qu'on vous fait remonter qu'il y a un contexte de violence qui est d'autant plus grand ?
Bien sûr, et puis les discriminations, elles existent. Elles sont à la fois, elles créent des menaces physiques sur notamment les jeunes personnes LGBTQIA+, mais c'est aussi des discriminations au travail, à l'embauche, parfois même pour avoir accès à un logement. Donc c'est des réalités qui sont extrêmement prégnantes. Il faut qu'on arrive à condamner toutes ces discriminations de manière bien plus ferme. Aujourd'hui, on peine à faire condamner les auteurs de discriminations et pourtant il faut le faire de manière bien plus importante. Évidemment, la première étape, c'est de reconnaître cette discrimination. C'est pas possible de laisser entendre à des personnes qui les vivraient qu'elles se tromperaient ou qu'elles exagéreraient. Donc la première chose, c'est de leur dire qu'on les croit, qu'on les écoute et qu'ensuite on veut agir pour faire en sorte que ces discriminations elles baissent.
Et justement, vous l'avez un petit peu dit, mais j'aimerais bien que vous détailliez un petit peu plus. Pour ces personnes concernées qui seraient victimes, qu'est-ce que vous conseillez de faire ?
Moi, ce que je leur conseille, comme souvent, déjà, c'est d'être écouté, de savoir cru. Ensuite, évidemment, de porter plainte. Je crois que c'est important d'avoir recours à la justice. Et aussi, parce qu'on le sait, la justice, parfois, elle n'arrive pas à condamner suffisamment les discriminations. Je pense qu'il faut se mobiliser et agir. Alors, je tiens évidemment un discours différent, sans doute, pour quelqu'un qui serait mobilisé, qui serait un activiste, un militant, quelqu'un qui serait victime. Tout ne se compare pas. Mais je pense que c'est important de parler, que c'est important aussi, finalement, de rendre visibles toutes ces choses et aussi de faire confiance à ces associations qui, aujourd'hui, permettent aussi l'organisation de cette vie publique-là et qui protègent les personnes. Et on a besoin, enfin, et là, je dirais que c'est plus une responsabilité politique, qui est une responsabilité d'ailleurs nationale, il faut que la police soit bien plus formée pour accueillir les victimes de violences et les victimes de discrimination. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs important, moi je crois que dans l'état de droit, je parlais d'état de droit plus tôt, le bon état et la bonne santé d'un état de droit, elle se mesure avec beaucoup, beaucoup de critères. Mais finalement, la confiance d'une société envers sa police et sa justice, c'est aussi un critère de bonne santé d'un état de droit. Aujourd'hui, on ne peut que voir qu'il y a une forme de défaillance dans l'accueil de certaines victimes de discrimination et que tout ça doit être réglé.
Justement, c'est vrai qu'on l'a évoqué, vous avez dit que vous faites partie du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Est-ce que c'est aussi important pour vous de se faire un peu le relais de ces voix ?
Oui, complètement. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que moi, je pense mon mandat. Je crois que être parlementaire aujourd'hui, c'est autant évidemment avoir sa propre voix et travailler chaque jour pour faire avancer les sujets et les valeurs qu'on porte, mais c'est aussi se faire la porte-voix en l'occurrence ici, de personnes qui se mobilisent. Et moi, en tout cas, ce que je veux, c'est d'ouvrir les portes du Parlement européen à toutes ces associations qui se battent pour l'égalité.
Et des associations, j'imagine, à toutes les échelles. Comment vous contribuez à faire le relais entre ces différentes associations ?
Écoutez, je les rencontre. Déjà, j'essaie de les rencontrer, d'en rencontrer beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi à Rennes. C'est parce que c'est important pour moi de rencontrer des associations qui agissent au niveau local. Au plus près des citoyennes et des citoyens. Et tout à l'heure, je discutais avec des associations qui travaillent sur l'ensemble de la Bretagne, qui interviennent dans les lycées, dans les collèges pour combattre les discriminations, qui organisent des tournois sportifs ouverts à tous, mais justement pour partager cette culture de l'inclusion et la lutte contre les discriminations. Je discutais avec d'autres associations qui me partageaient leurs interrogations sur le rôle et la puissance ou l'impuissance de l'Europe. Et je trouve que tous ces échanges sont précieux, vraiment précieux. Et donc moi, j'essaye de faire cet effort-là, de beaucoup me déplacer en France, parce que nous sommes élus sur une liste nationale. Mais j'essaye de beaucoup me déplacer et partout où je vais, de vous rencontrer des acteurs locaux.
Vous l'avez un petit peu dit, mais on vous reproche parfois que l'Europe n'est pas assez puissante.
Bien sûr. En fait, on est dans un grand paradoxe, où à la fois, parfois, il y a des envies, sans doute peut-être de repli sur soi, et en même temps, on reproche à l'Europe, et on a raison de lui reprocher, une forme d'impuissance. Moi, je veux que l'Europe soit puissante. Je veux qu'elle soit forte. Je veux qu'elle se réveille. C'est d'ailleurs le nom de la liste sur laquelle j'étais candidate en 2024. Aujourd'hui, je crois que quand on voit ce qui est à nos portes, que ce soit la guerre de Poutine en Ukraine, que ce soit les attaques de Donald Trump sur notre économie, que ce soit les attaques, il faut le dire, des libertariens et des réactionnaires contre nos régulations et contre notre état de droit, eh bien moi je veux que l'Europe, face à ça, elle se fasse respecter. Et se faire respecter, ça veut dire taper du poing sur la table, ça veut dire que oui, on va appliquer nos régulations, toutes nos régulations, que notre charte européenne des droits fondamentaux, eh bien c'est quelque chose avec lequel nous ne transigerons pas, et que finalement, nous allons un tout petit peu assumer ce que nous sommes. Et moi j'entends cette frustration de certains citoyens européens de se dire mais à quoi ça sert d'adopter tous ces textes si on ne les applique pas? Et j'ai envie de leur dire que globalement je suis d'accord. Et donc il est temps de les appliquer.
Avant minuit.
C'est l'heure de la chronique, et pour sa chronique psychipique, Marie-Lune aurait aimé aborder le sujet des représentations sociales de la marche des fiertés par ses différents et différentes protagonistes, mais rattrapée par le principe de réalité, elle ne le fera pas. C'est pas grave, nous t'écoutons quand même tout de suite pour ta dernière chronique de la saison, Marie-Lune, qui porte sur un thème bien différent.
Ici, on miaule toujours pas. Ici, on va essayer de parler de la père et danse en santé mentale. Tam 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 tam. Bah, non, ce générique n'était pas là pour dire que c'est mission impossible, mais pour poser que le sujet est vaste et divers et qu'il demandera plus qu'une chronique pour être abordé. C'est pourquoi, au Laker, il devrait faire l'objet d'une série d'émissions à l'avenir. She's just a little tease. En attendant d'en apprendre davantage, nous commencerons par en donner quelques définitions. Un point de vocabulaire d'abord. On a pair, P-A-I-R, qui désigne un être ou un objet égal, pareil à un autre, ou une personne de même condition, rang ou fonction. Et puis on a aidance, un nom commun inusité, plutôt inusité, synonyme de aide, assistance, secours. Associés de nos jours, ces deux mots font pair aidance et sont une entraide entre individus ayant vécu une expérience similaire de la maladie, qu'elle soit physique ou mentale. Dans la littérature, pour Luigi Flora et Philippe Brun en 2020, la pair aidance repose sur l'entraide entre personnes qui vivent une même maladie, somatique ou psychique, et elle peut se manifester au travers de dynamiques de groupe, telles les groupes d'entraide dont elle est issue. Pour Agathe Fancini et Aurélie Maurice en 2021, qu'ils soient professionnels, bénévoles ou informels, le soutien par les pairs en santé mentale repose sur le partage des expériences vécues avec la maladie psychique et sur les ressources mobilisées tout au long du parcours de rétablissement. Cette entraide, fondée sur les savoirs expérientiels, permettrait à la fois de redonner espoir aux personnes qui sont aux prises avec des difficultés psychiques, d'encourager leur parcours de rétablissement, de promouvoir leur pouvoir d'agir et de participer plus largement à la déstigmatisation des personnes porteuses d'un trouble ou d'un handicap psychique.
6 heures avant minuit.
Pour la Haute Autorité de Santé, en 2025, la pair aidance regroupe un ensemble de pratiques d'accompagnement, d'entraide et de soutien par lesquels une personne s'appuie sur le savoir qu'elle a retiré de sa propre expérience d'une situation vécue, habituellement considérée comme difficile et ou stigmatisante ou négative, comme une expérience de vie à la rue, la précarité, la conduite addictive ou des conduites addictives, des troubles psychiatriques. Ce, pour aider d'autres personnes vivant des parcours similaires, des situations comparables. Voilà pour quelques définitions. C'est intéressant, non ?
Grave !
Avec Sabine.
Coucou, c'est Sabine.
On pense que oui, et on a envie de prolonger cette chronique par un format radiophonique plus conséquent. Nous aimerions aller à la rencontre des personnes qui sauront nous en dire plus, car elles la vivent, la pratiquent ou la côtoient, afin d'aborder avec elles l'histoire de la paire aidance en santé mentale, ces notions comme le savoir expérientiel, le self-help, le rétablissement, l'empowerment ou le pouvoir d'agir, et afin aussi de faire affleurer ces questionnements, ces enjeux. La pratique peut ou doit-elle être professionnelle ou bénévole ? Quelles peuvent être les conséquences psychiques pour les personnes pères aidantes ou pères aidées ? Comment les institutions de soins souhaitent ou peuvent accueillir cette pratique ? Comment la pères aidance peut venir compléter la psychologie institutionnelle et le rôle joué par l'autre en son sein ? Qu'en est-il de la formation professionnelle ? Et bien d'autres thématiques encore. Pour en savoir plus sans attendre, vous trouverez déjà les références de cette chronique psychipique à la page du podcast de 6 heures avant minuit. Et pour qui saura t'attendre, Sabine et moi, on vous dit...
I'll be back.
Merci Marie-Lune. Bah, à l'année prochaine alors, si je comprends bien. Trop hâte. On se note ça dans un coin de notre tête. Il nous reste le répondeur à écouter ce soir. Je crois qu'on a un message vocal.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ?
Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Oui, c'est Sylviane, bonjour. Je vais arriver à la radio tout à l'heure pour un petit montage sous les conseils d'Héloïse. Là, c'est un petit message pour tout le monde, parce que j'ai fait un covoiturage vendredi avec Adé et puis Paolo, deux jeunes gens, étudiants, et vraiment, ils adorent la radio, et un big up pour Sortie des Briquets de la part de comment ça s'appelle, d'Adé, mais une radio très sympa, et je leur ai dit de laisser un message, alors ils vont peut-être le laisser ou pas, mais en tout cas, bravo. À tout à l'heure. Merci. Au revoir.
Merci Sylviane. Et oui, Adé et Palo, n'hésitez pas, on attend votre message du coup. J'espère qu'il va arriver. C'est la fin de cette émission. Elle est passée du studio à la régie ce soir. C'était Anna, la technique. Merci à toi. On se retrouve demain dans 6 heures avant minuit. Bonne soirée.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.